Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle librairie francophone, nouvelle formule, confinée. Nous rendrons hommage tout au long de l'émission au poète et chanteur kabyle Idir, qui nous a quittés le week-end dernier à l'âge de 70 ans. L'Orient et l'Occident s'unissent pour honorer sa mémoire, sa poésie et sa musique. Nous ferons une pause d'ailleurs tous ensemble tout à l'heure pour écouter l'un de ses chants pour la paix. Et puis en fin d'émission, Moussa Mokrane du groupe Zebda et la chanteuse algérienne Swad Massi seront avec nous pour vous raconter les valeurs portées par Idir. Nous serons aussi avec Manu Larsenet qui publie une nouvelle bande dessinée événement. Il s'interroge sur l'inspiration artistique et sur la dépression, un album foisonnant qui fait des clins d'œil à tous les styles de la BD. Et puis notre séquence qui donne la parole à un éditeur. Aujourd'hui, rendez-vous avec l'ex-ministre de la Culture en France, Françoise Nyssen, des éditions Actes Sud.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont bien sûr avec nous depuis la fermeture des librairies. Nous relayons les initiatives de ceux qui gardent le contact avec leurs clients et qui continuent à faire leur métier dans le respect des mesures de précaution sanitaire, bien sûr. On part à Bruxelles tout de suite avec la plus québécoise des librairies belges. Bonjour Ariane Herman.
Oui, bonjour Emmanuel Kérad.
La librairie Tulitu propose en majorité des livres canadiens francophones. Vous êtes installé dans un quartier très vivant avec des commerces, un petit marché, des artisans et des restaurants. Restaurant avec des bars aussi. Comment ça s'est passé pour vous depuis le début du confinement avec tout ce qu'il y a autour de vous quasiment fermé?
Oui, c'est sûr que le quartier s'est endormi en une fois et donc j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai fait très peu de livraisons en fait pour plus dépanner les clients, leur rendre service que faire quelque chose d'organisé. Et par contre, j'ai beaucoup lu et donc j'ai plutôt essayé de garder le contact avec mes clients en donnant un maximum de mes coups de cœur sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu un peu garder le contact avec eux.
Qu'est-ce que vous attendez, alors, du coup, de la réouverture de la librairie et de cette nouvelle rentrée littéraire? Parce qu'on peut quasiment parler d'une nouvelle rentrée littéraire pour l'été et puis à venir, évidemment, pour la rentrée.
Moi, je sens que, en fait, les clients, ils sont là, ils sont fébriles, ils seront au rendez-vous. Exceptionnellement, on va ouvrir lundi, alors que d'habitude, on est fermé le lundi. Mais par contre, pour les nouveautés, moi, j'ai plutôt envie de dire que j'ai envie de continuer à défendre, en fait, des coups de cœur qu'on n'a pas encore eu le temps de défendre comme il fallait.
Eh oui.
Ça, c'est ceux-là aussi, les oubliés, des livres qu'on a adorés et puis, en fait, qu'on a pu défendre que 15 jours, 3 semaines. Et donc, ceux-là, j'ai vraiment envie de les remettre aussi en avant.
Eh oui, effectivement, il va falloir soutenir ces livres qui sont sortis juste avant le confinement. Hein. C'est pas de chance pour certains auteurs parce que certains sont sortis début mars et n'ont pas du tout eu la possibilité de défendre leurs livres. Merci beaucoup, Ariane Herman.
Merci, Emmanuel.
Merci, bon courage donc à Bruxelles. Je rappelle que la librairie Tulitu est une librairie qui fait le pont, comme cela, entre la Belgique et le Canada. Merci à vous, Ariane. En France, on retrouve Sophie Todescato, libraire à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Comment avez-vous gardé le lien avec vos clients, vous?
Écoutez, on a gardé le lien comme on a pu. En fait, on leur a écrit beaucoup. On a répondu à leurs mails et puis on a eu envie de trouver une forme pour que subsistent nos échanges. Et on a donc eu l'idée de les inviter à jouer de chez eux au libraire en leur demandant de nous envoyer leur bibliothèque idéale, c'est-à-dire de nous faire la liste des 15 livres qu'ils conseilleraient pour affronter cette espèce d'expérience de l'île déserte que menaçait d'être le confinement, et qu'a été le confinement d'ailleurs. Et en fait, ça a beaucoup plu, on a reçu énormément de leurs listes, on les a publiées sur notre site internet, et on s'est rendu compte qu'elles formaient une espèce de bibliothèque idéale collective. Quand on a rouvert un petit peu la librairie sous forme de comptoir, quelques heures comme ça, on s'est rendu compte que beaucoup de clients nous réservaient justement ces livres-là, ceux qui leur avaient été recommandés par les uns et les autres. Et vraiment, c'était très beau, je trouve, ce désir de partage.
Parfait, on peut retrouver cette liste, ces listes d'ailleurs, sur votre site internet. Donnez-le pour tous les auditeurs.
www.librairietemps-moderne-sans-article.fr. Emmanuel, on attend la vôtre d'ailleurs.
D'accord, je vais vous faire ça. D'accord. Merci beaucoup Sophie. Merci. Bonjour Katia Courteau.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada aujourd'hui, vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Vous, ça sera vers le 18 mai, je crois, hein, la réouverture.
Exactement. La plupart des librairies au Québec ont déjà réouvert cette semaine. Mais pour la région de Montréal, comme c'est la région la plus touchée, il faudra attendre effectivement le 18 mai. Et je pense que les clients seront là au rendez-vous. On a très hâte de voir nos clients les yeux dans les yeux, comme on se disait l'autre semaine.
Exactement. Merci Katia. Nathalie Clairin est en Belgique, dans la librairie de la Mazrine, à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Vous aussi, on a déjà parlé de vos initiatives dans votre librairie, tout comme en Suisse, avec Yasmina Jacquinto aujourd'hui. Bonjour Yasmina.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Baobab à Martigny. Merci d'être avec nous toutes les quatre. Si vous êtes libraire et si vous voulez nous parler d'une initiative positive, même après le confinement, contactez-nous par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad. Avant de rejoindre Françoise Nissen et Manu Larsonnet, voici le son de la francophonie, une nouveauté musicale qui est numéro un en ce moment dans un pays francophone. On part en Belgique aujourd'hui avec le groupe franco-suisse Arcadie, qui est le titre francophone numéro 1 en ce moment.
Et si ce matin tu veux tout foutre en l'air, c'est facile, je t'aiderai à l'oublier. Et tu verras au fil des années ta vie qui défile, toujours à tes côtés. On est là, on est là, avec toi quand d'autres sont partis. On est là, on est là, pour le meilleur et le pire de nos. Ce matin, on va tout foutre en l'air, c'est facile. Je t'aiderai à l'oublier. Et tu verras au fil des années ta vie qui défile. Toujours à tes côtés. On est là, on est là. Avec toi quand d'autres sont partis. On est là, on est là. Pour le meilleur et le pire de nos vies. Allez, ce matin, on va tout foutre en l'air, c'est facile. On est là, on est là. Et tu verras au fil des années.
On est là du groupe Arcadian, musique francophone numéro 1 en Belgique en ce moment. Chaque semaine, nous donnons la parole à un éditeur. On garde le lien avec la chaîne du livre, les libraires, les lecteurs, les auteurs et donc les éditeurs. Bonjour Françoise Nissen.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'intervenir dans cette librairie francophone Nouvelle Formule, formule confinée. Vous êtes présidente du directoire des éditions Actes Sud et vous avez déclaré que la fermeture des librairies vous a plongé dans un état de sidération.
Ah oui, parce que je n'avais pas imaginé que cela soit possible. Tout s'est arrêté, ce qui montre bien que on est vraiment dans un écosystème. Un maillon de la chaîne, et Dieu sait s'il est important, la librairie, vous en savez quelque chose, s'arrête, et tout se met, c'est comme le morceau de sucre dans Babel qui entraîne tout, et bien tout se met à s'arrêter petit à petit. C'était hallucinant.
Bon, Actes Sud a réorganisé ses sorties en vue du déconfinement. Sur quels critères vous êtes-vous organisée, Françoise ?
Écoutez, d'abord, on a beaucoup travaillé en relation permanente avec l'ensemble des acteurs du système. C'est vrai qu'il y a quand même une espèce de chose terrible qui va arriver pour la librairie et pour les auteurs qui étaient dans cette période. C'est que les livres de mi-mars ont été totalement stoppés, voire même pas déballés. Les livres qui devaient apparaître en avril, eh bien, il n'y a pas de mois d'avril, si je puis me dire. Donc, il fallait tout réorganiser et pour que chacun puisse respirer, exister. Donc, c'était notre préoccupation. C'est qu'à la fois, la librairie puisse digérer ce qui allait arriver et que les auteurs puissent trouver leur place.
Mais alors, est-ce que la rentrée d'Actes Sud sera augmentée du coup ? Antoine Gallimard avait annoncé au début de la crise vouloir la restreindre au contraire. Vous allez rajouter des livres en septembre ?
Pas du tout, justement. On a totalement été conforme à ce que nous avons dit. Hein. On annonce des choses et on est totalement conforme. Donc Bertrand, qui est le directeur éditorial, a organisé la rentrée dans un premier temps, au lieu d'avoir les 7-8... Ça fait 30 ans qu'on fait 7-8 livres de littérature française à la rentrée. Il en a gardé 4. Avec les auteurs, ils ont parlé pour voir qui se sentait mieux, plus à l'aise d'être un peu plus tard, etc. Et comme il en a gardé 4, il a pu du coup accueillir, si je puis me permettre, ceux qui devaient sortir en avril et avant l'été. Et donc, on a une belle rentrée de 7 romans français, ce qui est tout à fait raisonnable pour les accompagner et pour les défendre.
D'accord. Cette crise est un désastre pour la culture. Quel est l'espoir pour l'avenir, Françoise Nyssen? Vous, la précédente ministre de la Culture en France, avez-vous été consultée, par exemple, pour cette relance culturelle?
Écoutez, en tant qu'acteur de la culture, parce que le livre est au cœur de la culture, hein, tout part des récits. C'est vrai que c'est un désastre pour la culture. Je pense que les gens ne prennent pas tout à fait la mesure de la chose, alors que, paradoxalement, toutes les formes artistiques sont utilisées dans les manifestations de solidarité ou dans toutes les occupations. On le voit bien, la culture est un mode d'expression essentiel dans cette solidarité, dans cet isolement dans lequel chacun se trouve. Je trouve qu'il faut plus faire valoir l'importance de la culture. Justement, vous m'avez posé la question quand j'étais ministre.
Oui.
Je clamais l'importance de l'accès à la culture, de l'éveil au sensible dès la naissance, à l'école, la pratique. À l'époque, on trouvait ça un peu bizarre, ou la culture près de chez soi, on trouvait ça un peu bizarre. Et maintenant, c'est absolument ce qu'il s'agit de faire.
Donc vous imposez vos idées là aujourd'hui. Je vous demandais si vous avez été consultée. Vous avez forcément des idées ou des envies, Françoise. Est-ce que vous vous intervenez?
J'ai une bouche pour parler, j'ai des oreilles pour entendre, et je suis comment dirais-je, engagée pour la culture. Je suis enragée pour la culture. Donc je ne me tairai pas. Je publie des articles, j'interviens un peu partout, j'appelle qui je peux appeler, je clame l'importance et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Je trouve que justement, les personnes qui sont en responsabilité ne le disent pas assez. Plus que jamais, on assiste à la, s'il le fallait le prouver encore, combien la culture elle est essentielle.
Ouais.
C'est une de nos plus grandes richesses.
Bon, c'est un beau message en tout cas, Françoise. Merci. Nous vous avons demandé, comme aux autres éditeurs qui sont intervenus avant vous, de choisir un classique pioché dans votre catalogue d'Actes Sud. Quel livre conseillez-vous, Françoise?
Alors, j'ai compris que comme on était à la librairie francophone, il fallait prendre un auteur francophone.
C'est ça.
Et donc, mais c'est vraiment le choix de Sophie de choisir un livre, parce que au moment où je vous donne un titre, je pense à quelqu'un d'autre.
Et oui.
Pour autant, je me suis arrêtée, j'ai hésité longuement entre Shimazaki, la japonaise qui écrit en français depuis Montréal, ou bien
Nancy Houston. Non.
Ça peut être Nancy Houston aussi, parce que je suis, vous savez combien j'apprécie son œuvre et combien elle est importante.
J'avais parié sur elle. Je pensais que vous alliez parler d'elle.
Eh bien non, quand je vais vous dire son nom, vous allez dire c'est évident, parce qu'il a été un grand inspirateur pour beaucoup d'écrivains et d'écrivaines de notre catalogue, notamment très proche de Nancy Houston, très proche de Alice Fernet, par exemple. Eh bien, c'est Henri Bouchot.
Ah bah oui.
Henri Bouchot, avec Œdipe sur la route et Antigone, ce sont les plus beaux personnages de la littérature et de la mythologie. Et en même temps, c'est tout l'univers de l'intériorité, de la puissance et la fragilité des êtres, du voyage initiatique. Et c'est en même temps l'invention, justement. Il utilise toutes les formes d'expression artistique pour dire l'errance, pour dire les interrogations, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit l'invention du théâtre dans Antigone. Ce sont des chefs-d'œuvre. Et j'avais envie, merci de me donner l'occasion de rendre un énorme hommage à cet écrivain immense. Je trouve que recommander à tous de retourner à Œdipe sur la route et Antigone, c'est un bonheur et une nécessité garantie.
Bon voilà, je m'associe totalement à ce coup de cœur. Henri Bouchot, formidable auteur. Il avait d'ailleurs donné sa dernière interview juste avant sa mort dans la librairie francophone. C'était pour Déluge et c'est un souvenir mémorable. Merci beaucoup, Françoise.
Voilà.
Voilà, la boucle est bouclée avec Henri Bouchot et nous. Merci, Françoise Nyssen.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Françoise. Bon week-end, donc, du côté d'Arles. Et faites attention à vous, surtout, Françoise.
Merci, vous aussi.
À bientôt, merci. Au revoir.
Au revoir, Emmanuel.
À suivre, Manu Larsenet et l'hommage grand format à Idir. Idir que l'on écoute tout de suite avec le groupe Zebda dans la librairie francophone.
نسيت ذكير ولا قسم بات الدور مي كان غدا استقصير هذا فاغ لي حالة ثور أمزو ساكن لي دغير شاكن لي دتزور شا
cueille mes tétos. Tu peux toujours écrire sur tous les toits que le ciel ne sera pas sans voix. Moi j'ai gardé les pieds sur terre. Un homme qui a pas de frère à pas sa serre. Et rêver que le diable un beau matin prenne congé de ceux qui ont plus rien. À gagner ou à perdre mystère. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Tu peux promettre au désert un peu plus d'eau, mais même le plus beau de tous les cadeaux, si on sait pas comment on s'en sert. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Et fait rire la horde de tous les gamins en éclatant les oranges d'une main, sans savoir s'ils sont pas privés de dessert. Un homme qui a pas de frère à quoi ça sert. Mais elle en a un mot.
Idir et Zebda, un homme qui n'a pas de frère, nous rendons hommage à Idir aujourd'hui et nous serons avec Moussa Mokran du groupe Zebda et Swan Massi tout à l'heure.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et bonjour Manu Larsonnet.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, où êtes-vous en ce moment Manu?
Je suis dans mon atelier, je suis confiné dans mon atelier.
D'accord, et qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre, tiens?
Je vois un ciel gris plombé avec un grand mur de pierre jaune. C'est pas ultra sexy comme atelier.
Non. Bon, écoutez, au moins vous êtes au calme. Votre nouvelle bande dessinée est une surprise colorée et éclectique, Manu Larsonnet. Dans Thérapie de groupe, vous explorez tous les styles de la BD, démontrant au passage votre incroyable talent de dessinateur. Avant d'évoquer le sujet principal, qui semble être un peu autobiographique, va-t-on dire, est-ce un hommage à la BD? Est-ce un hommage à tous les styles de la BD?
Alors, hommage, c'est un bien grand mot, parce que j'ai pas envie de faire des hommages, mais moi, la bande dessinée, c'est mon langage. Vous voyez, je parle que comme ça, en fait. Les mots sont venus plus tard, vous voyez, les interactions sociales sont venues plus tard, mais dans mon enfance, c'est ça qui m'a un peu maintenu à flot, c'est de la bande dessinée, la lire
ouais.
Et en faire.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a du manga, il y a du récit graphique narratif, un peu de comics, des comic strips, de la caricature, des délires graphiques et de la science-fiction. Bref, on se dit, Manu Larsonnet se cherche, parce que c'est le sujet du livre, mais en fait, c'est plus subtil que ça.
Ouais, j'espère que c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est surtout que j'ai souvent des envies graphiques. Alors, ces envies graphiques peuvent donner lieu à des livres, mais quand il n'y a pas la matière nécessaire, cette envie graphique, elle s'en va pas. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur les hiéroglyphes. Je trouve magnifique cette manière d'écrire. Et pour l'instant, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le mettre dans le livre. C'est obligé dans le deuxième tome. Mmh. Vous voyez, toutes ces envies-là, il faut que je me torture l'esprit pour faire un petit récit qui puisse les englober. pour que je puisse éviter d'être frustré de pas avoir pu faire tel ou tel style ou parler de tel ou tel peintre ou de tel ou tel moment dans l'histoire de l'art.
Oui, c'est ça, c'est un peu la liberté totale là pour le coup. Parce que vous n'avez pas de style imposé comme dans Blast ou quand dans Retour à la Terre, il y avait un style bien précis. Là, tout est ouvert.
Mais en fait, je me suis jamais vraiment servi de ma psyché très chaotique. J'ai toujours essayé de domestiquer ça pour en faire des récits, pour en faire des choses que les gens pourraient suivre facilement. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce chaos qui m'étreint souvent pour en faire un style narratif? C'est-à-dire qu'effectivement, on saute du coq à l'âne. Donc oui, j'utilise d'une part le chaos, mais c'est quand même très mis en forme parce qu'un chaos brut ou brutal, ça n'aurait aucun sens.
Ouais. Alors vous vous mettez en scène, hein, Manu Larsonnet, grand auteur de BD aux multiples récompenses, le génie de la BD, c'est vous qui le dites, est en panne d'inspiration. Il a peur d'être un artiste fini. Qu'est-ce que c'est un artiste fini exactement?
Alors un artiste fini, c'est quelqu'un qui sait plus ce qu'il doit dire, qui sait plus s'il a quelque chose à dire. C'est pas de se mettre devant une page blanche. Si je me mets devant une page blanche, je peux pondre une page, je peux pondre un livre si je veux. Maintenant, est-ce que je peux faire des livres qui vont me suivre dans mon âge? J'ai pas envie, j'ai plus 15 ans, vous voyez, j'ai plus 20 ans, donc j'ai pas envie de faire ce que je faisais à 20 ans. Est-ce qu'on peut comme ça emmener la bande dessinée certains l'ont fait, Tardy par exemple le fait très bien, mais ouais. Moi j'essaye de pas me lasser de la bande dessinée, voilà.
Ouais, d'accord. Bon, il y a une phrase qui va le faire réagir lors d'une interview à la radio. On lui dit « il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse ». Et le problème, c'est que votre personnage, vous donc, apparemment, eh bien, il a trop de chaos en lui. Ça déborde.
C'est un problème, en fait. Il y a deux phrases importantes. Il y a celle-là qui est de Nietzsche, hein, on va pas...
Oui.
Nietzsche, ça fait toujours classe de placer Nietzsche. Hein, je vais pas faire semblant. Et l'autre qui est de Boileau, où il dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et entre ces deux opposés, là, parce que c'est vraiment deux opposés, il faut vivre en tant qu'artiste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur de trouver de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté Boileau, du côté... est-ce que quand on a du chaos, mais du vrai chaos maladif, des trucs qui vous prennent la tête plus que de raison, est-ce que c'est pas non plus un empêchement à autre chose dans l'art?
Et
le fait, au contraire, de tout bien comprendre, est-ce que c'est pas aussi un empêchement? C'est le chat qui se mord la queue, quoi. Le serpent, pardon, qui se mord la queue, parce que un chat, ça se mord pas la queue.
Non, moyennement, ça dépend. Ça dépend des chats.
Et des serpents.
Mais ça, ça déborde au point d'atteindre la dépression. Comment on en arrive là, Manu Larsonnet?
Je ne sais pas pour les autres. Vous voyez, vous dites « on », et je ne sais pas pour « on ». Pour moi, je sais que... Alors moi, je suis malade, je suis bipolaire, donc c'est une des deux maladies mentales qui existent. Donc je suis malade depuis très longtemps, ma vie est chaotique, tout a été basé autour de la maladie. Et donc cette... La dépression est consubstantielle à la bipolarité, donc je connais ça depuis très longtemps. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont j'avais commencé à parler dans Blast. Mais c'est vrai que quand on cherche quelque chose et qu'on le trouve pas, et que vous ne pouvez que rester assis face à votre feuille, parce que si vous allez voir un concert au cinéma ou machin, bah vous sortez du... Enfin, moi, en tout cas, je sors de mon processus intellectuel de travail, quoi. On peut pas se reposer, en fait. Il y a pas de repos possible.
Et ça,
ça peut mener aussi à des formes de dépression. Mais ça emmène aussi à des joies inextinguibles. Quand vous réussissez là où vous avez échoué pendant 3 mois, c'est une joie qui est difficile à partager et que j'ai même du mal à expliquer.
Ouais, mais c'est vrai qu'il dit ne pas savoir se reposer intellectuellement. Alors physiquement, on y arrive tous, et bon nombre d'entre nous le vivent en ce moment, mais intellectuellement, c'est plus compliqué. On brasse son esprit et parfois on brasse des idées noires.
Ouais, c'est ça. Je dis toujours que je glande. Quand je fais rien, en fait, je glande. Mais glander et se reposer, c'est pas la même chose. Et donc moi, dès que je fais autre chose que de la bande dessinée ou résoudre les problèmes que me pose la bande dessinée, j'ai l'impression que je devrais plutôt être à ma table en train de travailler. Donc j'ai pas de repos, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances, j'ai rien. Je suis un peu taré avec ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je lâche, j'arriverai peut-être plus à revenir. Tu vois? J'arriverai peut-être plus à retrouver le souffle.
Ouais, vous dites dans ce livre, on croit trop souvent que glander, c'est se reposer. Grossière erreur, la différence, c'est la culpabilité. C'est exactement ça. Bon, on va laisser la place à nos libraires qui ont lu votre bande dessinée, Manu Larsonnet. Vous connaissez nos libraires?
Bien sûr.
La Suisse, la Belgique et le Canada, on commence par qui?
Allons-y par la Suisse, c'est le plus proche.
Allons-y, c'est pas du tout préparé ensemble. Allez, Yasmina Giaquinto, qu'en avez-vous pensé de cette bande dessinée, Yasmina?
Votre album aurait pu être une masturbation mentale sur la panne d'inspiration et l'obsession de création. Mais en fait, il est hyper dynamique et décapant, bourré d'humour et plein de tendresse. Quel coup de génie que cette citation de Nietzsche. J'espère que vous allez encore cultiver longtemps votre chaos, Manu Larsenet.
Oh, pas mal.
Super gentil. Oh, bah, non seulement c'est super gentil. Mal, en plus, c'est adorable. Enfin, comment dire, à part le Retour à la Terre, j'ai pas fait de bons albums d'humour. Et le Retour à la Terre, c'est écrit par Jean-Yves Ferry. Donc, en gros, j'ai jamais fait de bons albums d'humour. Et quand j'ai un bon retour comme celui-là, sur un album qui est vraiment sur une forme humoristique, ça me fait un plaisir fou.
On va aller voir Katia Courteau, qui est au Canada. Vous avez aimé, Katia?
Ah, de mon côté aussi, j'ai adoré. Mais quel régal de plonger dans cet humour déjanté. L'idée de l'artiste fini, en manque d'inspiration, maintes fois visité en littérature. Vous, Manu Larsenet, vous l'arrimez à beaucoup d'originalité, d'intelligence aussi. Une autodérision aussi qui fait du bien. On sent que l'artiste que vous êtes, en pleine possession de ses moyens, s'est amusé à diversifier les styles graphiques et les ambiances. On vous reconnaît, évidemment, mais vous arrivez à nous surprendre.
Pas mal, Katia.
J'ai de la chance aujourd'hui, hein.
Bah, dis donc, ouais, j'ai l'impression. J'espère que Nathalie Clairin sera plus mesurée pour la Belgique. Nathalie Clairin, d'accord, pas d'accord?
Ah, oui, Emmanuel, moi, j'ai vraiment adoré l'ouvrage. Donc, le génie de Manu Larsenet culmine ici. Ce que je trouve ambitieux de s'attaquer au thème du processus créatif avec l'angoisse du vide, de la page blanche, et il l'a fait à merveille. Donc, j'adore ce jeu où la remise en question de soi flirte tout le temps un peu avec la psychose et la perte de contact avec la réalité, et puis des personnages tout à fait terre à terre qui viennent nous rappeler la réalité. Et ça convient bien à cette période de confinement. Quant au dessin, il est riche à souhait, jouant sur plusieurs styles, et il a une force éminemment éloquente, parce que j'ai fait l'expérience de relire la BD sans lire les phylactères, et c'était magnifique aussi.
Oh, mais c'est encore mieux que les autres. Elle a été encore plus loin, quoi. J'en profite pour déclarer ma flamme au Québec.
Là, c'était la Belgique, hein, c'était Nathalie, mais.
Ah merde, raté. C'est juste pas grave, déclare quand même ma flamme au Québec, même si c'est pour la Belgique. Merci la Belgique, merci madame.
Effectivement, elle a raison, Nathalie, le dessin est très expressif. Il y a de l'humour.
J'aurais jamais pensé que quelqu'un le lirait sans les phylactères.
Ah, moi non plus.
Tu vois, c'est une drôle d'idée parce que, tu sais, souvent, les bouquins, tu regardes dans les bibliothèques, les gens lisent de l'humour, ils le lisent en 3 secondes, tu vois.
Oui.
Et moi, je m'étais dit, je vais bourrer de texte pour que ça dure plus de 3 secondes. Bah, la dame, elle a regardé que les dessins. Eh ben, alors, merci d'abord, mais il faut quand même lire les textes, si possible.
Bon. On a souvent des fous rires ensemble, là. Je crois que depuis toutes ces années, c'est déjà arrivé.
C'est vrai que ça fait un bout de temps, hein.
Désolé.
C'est une fidélité, en tout cas.
Mais je vous en prie. Bienvenue.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en plus.
Bon, c'est vrai, réflexion sur la création, cette bande dessinée. À quoi cela sert de créer? À quoi ça sert un dessinateur de BD, Manu Larsenet?
Ah, bah, rien. C'est ça qui est extraordinaire. Ça sert à que dalle. Votre garagiste est plus important qu'un auteur de bande dessinée.
Bon, il y a Paul Cézanne qui va venir faire la leçon à Manu Larsenet dans votre BD. On ne devient un grand artiste qu'à la condition d'avoir respecté et probablement intégré les anciens, ceux qui ont laissé des traces avant nous. Ça, c'est un message que vous faites passer l'air de rien, Manu, non ?
C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier quand on commence des études d'art et des trucs comme ça. On se dit, voilà, je sais. Tu vois, et puis tu t'aperçois en fait en continuant à étudier qu'en fait il y a 20 mecs qui l'ont fait avant toi, qui ont compris ça avant toi. Donc il faut d'abord se renseigner. Voilà, il faut se nourrir de ce qui a déjà été fait.
Et le manque d'inspiration, ça vient de là parfois. Ça vient de cette pression là de ce qui a été fait avant.
C'est en même temps c'est très traître parce que quand vous lisez des gens meilleurs que vous, vous vous dites bon bah voilà, là, maintenant je sais que je peux faire mieux. Alors vous tentez, vous essayez, puis des fois vous parvenez, vous en lisez un autre qui est encore meilleur. Il faut se renseigner juste. Il faut se renseigner sur ce qu'on fait les autres.
Bon, merci beaucoup, Manu Larsenet. Merci infiniment.
Merci, monsieur Kirad.
Merci, monsieur Larsenet. Thérapie de groupe, tome 1, L'étoile qui danse, est paru chez Dargaud. Merci, Manu. Au revoir.
Ciao.
Dire Vladimir est donc parti le week-end dernier, laissant dans la tristesse et le désarroi des millions de fans en Orient et en Occident. Tous ceux qui ont eu un lien direct ou indirect avec l'Algérie dans leur vie vous diront à quel point Idir était un pilier de la culture kabyle et de tout le Maghreb. Mais Idir, c'est aussi le pont entre les cultures, toutes les religions et les origines. Il a porté la paix et la fraternité toute sa vie. Rencontrer Idir, c'était échanger avec l'un des plus grands humanistes de ce monde. Fidèle à toutes mes émissions depuis mes débuts, Idir était un incontournable, lumineux, généreux, sincère et bienveillant. Nous avons fait tant d'émissions émouvantes avec lui. Un jour, dans Escale Estivale, sur France Inter, en France, j'ai proposé en direct aux auditeurs d'écouter une chanson de lui. Il était en plateau. J'ai demandé à ceux qui nous écoutaient de tout arrêter. D'arrêter leur voiture au bord de la route et toutes leurs activités. J'avais demandé de suspendre le temps et de se laisser porter 3 minutes, comme ça, par la musique d'Idir. Et beaucoup l'ont fait, figurez-vous. On a eu des témoignages pendant plusieurs jours. Ce moment l'avait ému aux larmes. Alors, nous allons le faire une nouvelle fois. Arrêtez tout ce que vous faites. Écoutez cette chanson et ce message de paix chanté par Idir en duo avec la chanteuse israélienne Noah. Écoutons ensemble, suspendons le temps dans la librairie francophone, où que vous soyez dans le monde, recréons ce lien avec Idir.
Avec le langage des fleurs, ou les mots de ma douleur, y aurait-il un vrai bonheur à partager? Différent par la couleur, au-delà de toutes les peurs, ce cœur venu d'ailleurs peut-il aimer?
Avec le langage des fleurs et les mots de ta douleur, il existe un vrai bonheur à partager.
Que ma famille sera la tienne.
Idir avec Noah, ce cœur venu d'ailleurs, dans la librairie francophone. Hommage à Idir, mort le week-end dernier à l'âge de 70 ans. Moussa Mokran, du duo Mousse et Hakim et du groupe Zebda, est avec nous. Bonjour Mousse.
Bonjour.
On écoutait tout à l'heure ce titre génial avec Idir, un homme qui n'a pas de frère. La force d'Idir, c'était ses messages dans les textes, comme chez Zebda d'ailleurs. Avant d'être un homme engagé et militant, c'était un humaniste en toute simplicité.
Oui, vraiment un humaniste né, quelqu'un qui avait le sens des gens, le sens du contact, de l'écoute aussi, une extrême douceur dans sa manière de d'entrer en contact avec vous, alors que ce soit sur scène et quand on est dans le public, on s'en rendait compte, mais réellement, dans une relation humaine directe, il avait cet état d'esprit-là en permanence, à l'écoute et puis à vouloir surtout élever le niveau, comme il disait souvent, essayer d'aller un petit peu plus loin. Et c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans sa musique, hein. Tu l'as évoqué tout à l'heure, bien sûr, Idir, c'est un pont entre les cultures, entre toutes les histoires, mais aussi un pont générationnel. Quelqu'un qui a permis que le lien se fasse. Quel formidable rôle d'artiste, en fait. Je veux dire, si un artiste doit avoir un rôle, c'est bien celui-là. C'est créer le lien et permettre d'aller un petit peu plus loin ensemble.
Et porter l'émotion aussi. Alors, c'était un poète, un intellectuel, et il portait une telle émotion que le public était à son tour envahi par l'émotion. On le voyait notamment sur les concerts, où on le voit aujourd'hui encore avec tous les témoignages qui nous parviennent du monde entier. Il y a une émotion incroyable autour d'Idir.
Incroyable. D'ailleurs, de parler de lui, ça me provoque une émotion. L'annonce de son décès en était une, hein. C'est parce que justement, avec l'émotion, s'autoriser cette émotion, la permettre, être en contact avec, ça fait partie de ces éléments qui permettent justement de créer ces liens ou de construire ces ponts. L'émotion, c'est aussi savoir qui on est, se connaître un peu mieux. Et encore une fois, Idir faisait reposer son art sur cette finesse-là. Quand on écoute sa musique, on voit dans les harmonies, ouais, dans son ouverture au monde lui-même aussi, à partir des chants de femmes de son village. Il peut être en contact avec Bob Dylan, quelque part. Il peut être en contact avec des chanteurs bretons, occitans. C'est, encore une fois, pour revenir sur cette émotion-là, c'est quand même un sacré, sacré talent de pouvoir l'avoir à ce point et la transmettre.
Eh oui, oui. Artiste culte, hein, on le disait, oui, à travers tout le Maghreb et même au-delà. Le rencontrer était, pour les artistes inclus, et surtout d'ailleurs pour les artistes, paraît-il, un moment très fort. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Idir, Moussa Mokran?
Oui, je me souviens très très bien. Bon, voilà, nous sommes nous-mêmes des enfants d'immigration algérienne, Kabyle, donc on a particulièrement été bercés par Idir et son album mythique, hein, Avava Inouva, et... Et ensuite, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était en 99, on faisait une série de cigales avec Zebda et on avait décidé de faire chaque soir, un membre du groupe faisait la première partie. Et lors de ma soirée à moi, je voulais absolument inviter Idir, mais genre comme si je voulais inviter Bob Marley, enfin bon, il est plus là, il était plus là déjà, mais enfin, quelqu'un de vraiment très important. Et puis ça s'est fait et il est venu. Et il est venu chanter. Et je crois que c'est la première fois de ma vie de musicien, qui était quand même bon, assez courte à cette époque-là, une petite dizaine d'années, qu'il a fallu que je me concentre sévère pour pas pleurer. Mais pleurer, mais pas de tristesse, tellement j'étais honoré, heureux. Ah oui. Et dans cette émotion, à ses côtés, j'avais toutes les images de tous les gens qui pouvaient y voir le fait qu'on soit dans le juste. En fait, je fais ce que j'ai à faire, je suis à côté d'Idir, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Eh oui.
Oui, c'est énorme. Et ça, j'ai ce souvenir-là qui revient, c'est qu'il a fallu que je me concentre. Et j'oublierai jamais aussi, à la fin de cette soirée-là, il y avait Catherine Ringer dans la salle. Et Catherine Ringer, qui, sans un mot, m'attrape et me serre dans ses bras, et se tourne vers Idir, et lui dit merci monsieur. C'est quand même des choses assez incroyables. Et après, je veux dire, il y a une relation qui s'est installée, puisque... Oui. On a une fois, la première fois que notre père est monté à Paris, la seule fois d'ailleurs, on a été au resto avec Idir. Et c'est devenu un membre de la famille, comme beaucoup de gens d'ailleurs, finalement. Il fait partie de notre famille, de nos familles.
Ouais, il venait comme ça sur les concerts. Vous me racontiez cela tout à l'heure, on s'est appelé hein, avant cette émission. On se connaît bien, tous les deux en plus, avec Zebda. Vous faites partie de l'histoire aussi de la librairie francophone et de toutes mes émissions. Et, oui. Et vous me disiez qu'Idir, il était capable de prendre un train comme ça, encore récemment, hein, et de venir à l'un de vos concerts pour chanter avec vous.
Oui, en 2017, donc il y a très peu de temps, 2017-2018, il était venu sur une dizaine de dates. Et au départ, je l'avais appelé une fois en disant Hamid, donc son prénom, Hamid, ouais. On a l'opportunité de t'inviter, ça nous ferait plaisir. Bien sûr, moi aussi, ça me fait plaisir. Et il est venu en train pour faire un ou deux morceaux. Et puis une deuxième fois, je l'ai rappelé, puis une troisième fois, puis au fur et à mesure, il va dire, et je m'excusais au bout d'un moment de trop le solliciter, mais nous, on était honorés, les gens avaient envie de le voir aussi, hein, je veux dire... Les gens se leur disaient peut-être qu'Idir viendra, ah, c'est vrai, Idir va venir, eh oui. C'était énorme. Et il me disait, mais tu vas arrêter de t'excuser, si je veux pas venir, je viens pas. Et il venait, et puis il venait chanter deux, trois chansons avec nous, et puis du coup on passait du temps ensemble, il nous questionnait beaucoup sur nos façons de faire, il nous questionnait beaucoup aussi sur ce qu'on incarne en fait, parce que pour lui, je pense qu'on incarnait aussi cet après, toute cette histoire, c'est-à-dire le fait d'être nous-mêmes nés en France... de nous construire avec des références culturelles, mais aussi en inventer d'autres, parce qu'il allait falloir s'inventer en termes d'identité.
Mais
et c'est les choses qu'il disait.
Justement, qu'est-ce qu'il vous disait, Idir Moussa Mokran ? Parce que avec Zebda, avec Origine Contrôlée, avec Moussa Hakim aussi, vous avez rendu hommage de nombreuses fois au répertoire kabyle. Qu'est-ce qu'il disait de cela ? Est-ce qu'il en était satisfait d'abord ?
Je pense que oui, parce que d'abord on a continué à se voir et puis il nous l'a exprimé, mais c'est surtout ce qu'il a exprimé, c'est notre façon d'incarner, d'être dans cette histoire-là et de vouloir la transmettre absolument. Mmh. Et je pense qu'il voyait en nous un départ vers autre chose, vers certains diraient un troisième pays finalement, un endroit où on s'invente ensemble. Et c'est la force d'y dire, on le voit bien dans les hommages. Sa disparition n'a pas touché que les Kabyles ou que les Algériens. Mmh. Il fait vraiment partie de la vie des gens.
Oui, alors c'est vrai qu'il a très vite voulu faire des chansons avec d'autres artistes.
Oui.
Il y a eu l'album Identité qui a ouvert une voie qu'il n'a jamais lâchée. C'est sur Identité d'ailleurs que l'on peut retrouver le titre qu'on a entendu tout à l'heure avec Zebda.
Très bel album.
Et puis il y a eu La France des couleurs, Ici et ailleurs, son dernier album. Il vivait la musique par l'échange.
Complètement, par l'échange, par la relation humaine et par sa capacité à être fraternel et protecteur aussi. C'est-à-dire une douceur naturelle et quelque chose qui lui permettait d'être au contact simplement et surtout de créer un climat autour de lui parce que, bon, comme on dirait à Toulouse, méchant charisme le gars. Donc du coup, quand il est dans un endroit,
ouais.
C'est son état d'esprit, sa philosophie qui irrigue en fait. Et je pense que c'est aussi ça qu'il a appris au contact des gens. Et je crois qu'il aimait ça. En fait, je pense qu'il adorait ça.
Ouais.
Et c'est aussi pour ça qu'il aimait aussi dans la rencontre avec Zebda ou avec mon frère Hakim, il aimait ce renouveau-là.
Bon, merci beaucoup, Mousse.
Merci
d'être intervenu dans la librairie francophone.
Merci à vous pour cet hommage important. Merci.
Merci, très important. On voulait absolument rendre hommage à Idir tout au long de l'émission. On va rejoindre une autre artiste qui, elle aussi, a chanté avec Idir. La nouvelle grande voix féminine de l'Algérie, c'est Swan Massi.
وقدر الوحش الغفا هذا فاين وفا هذا فاين وفا
مدغولة تبكيني هاي اللي غريبة
La chanteuse Swad Massi est donc aussi avec nous en duplex. Bonjour Swad.
Bonjour.
La disparition d'Idir est une grande perte pour la poésie, pour la musique et pour l'art kabyle. Comment s'était passée votre rencontre avec lui ?
J'ai la chance de... partagé plusieurs fois la scène avec lui. On était chez le même tourneur et on a eu l'occasion de prendre le train ensemble aussi et de parler dans les loges. C'était vraiment à chaque fois un vrai privilège pour moi de lui parler.
Et vous aviez chanté avec Idir ce titre, ce tube qui a bercé tant de monde, Avava Inouva. C'est un titre fort, symbolique. Il l'était déjà pour vous aussi, Swan Massi ?
C'est... une chanson qui m'a nourrie, qui a bercé mon enfance et mon adolescence. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec cette chanson. Et quand je l'avais chantée avec lui sur scène, c'était à l'Olympia, j'avais fait sa première partie. Il m'a invité à la chanter avec lui. Et cette chanson a pris une autre dimension. J'avais les images de la Kabylie qui me revenaient sur scène. J'étais très, très émue. C'est vraiment un repère. une vraie légende.
On a eu beaucoup de témoignages d'ailleurs en ce sens sur les réseaux sociaux quand on a annoncé qu'on allait rendre hommage à Idir avec toutes ces personnes d'Algérie et d'ailleurs, hein, pas seulement au Maghreb en fait, c'est assez universel. La force d'Idir, on en parlait avec Mousse tout à l'heure, la force de l'émotion et la force de ces chansons qui restent comme ça, presque comme un patrimoine familial. Comment vous l'expliquez, ça ?
Il n'y a pas de mystère. Je pense que quand une chanson est vraie, quand elle, est, elle raconte quelque chose qui est proche de nous, bah, ça touche les gens. Je ne peux pas te donner une autre explication. Il y a une belle mélodie, le texte est magnifique, il est sublime. Hier encore, je partageais ça avec mes enfants, je leur traduisais les textes. Et ça parle au cœur, tout simplement.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson ? Justement, traduisez-la pour nous, là.
Alors, c'est une jeune femme qui demande à son papa de lui ouvrir la porte. Elle lui dit « Ouvre-moi la porte, j'ai froid. » Et son papa qui lui répond « Donne-moi un signe pour que je comprenne que c'est toi. » Et on a eu une grande discussion hier, d'ailleurs, parce qu'elle parlait de la famine, est-ce qu'elle parlait du froid, est-ce qu'elle parlait de quelle peur s'agit-il. En fait, c'était un texte très philosophique. Et en même temps, il décrit un peu... une famille berbère où il y a la vieille dame ou la grand-mère qui est en train de raconter une histoire et t'as tous les petits-enfants qui sont autour d'elle qui l'écoutent attentivement. Voilà, c'est, il y a beaucoup de tendresse et d'histoire.
Idir, vous a-t-il inspiré, Souane Massi, quand vous avez commencé à faire de la musique, par rapport à vos textes, je parle, parce que vous avez des textes très élaborés qui racontent beaucoup de choses, vous aussi, un peu dans l'esprit d'Idir. Est-ce que c'est venu de là, justement, cette inspiration, en tout cas ce style artistique ?
Idir est un pionnier de la modernisation de la chanson kabyle. Il a toujours été un modèle pour moi. Très moderne pour son temps, très en avance. Bien sûr, il m'a inspirée. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente. Et j'ai toujours voulu le prendre comme modèle. Il y a un autre chanteur qui s'appelle Ait Mengelat, mais c'est surtout de la poésie qui est très riche chez lui. Mais en ce qui concerne Idir, c'est ses belles mélodies, c'est le côté moderne qui m'attirait beaucoup. C'est quelqu'un qui était très mesuré, très sage. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de lui.
Bon, mesuré et sage. On va l'écouter justement, Idir. C'était dans Escale Estivale sur France Inter. Il nous avait accordé un long entretien et nous parle justement de tout ce que vous avez entendu tout à l'heure avec Mousse Amokrane, avec Souane Massi, l'ouverture, la tolérance et son regard sur le monde. Voici Idir dans la librairie francophone. Merci beaucoup, Souane Massi. À bientôt, Souane.
Merci.
Vous savez, je suis kabyle et à l'époque, quand des tribus se faisaient la guerre, il suffisait qu'on prenne un poète de chaque tribu, qu'il venait dans le village donc faire des joutes oratoires. Et quand quelqu'un disait de très belles choses, le combat cessait parce que le mot a une valeur énorme. Et donc, je suis né un petit peu dans cette tradition orale où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une chanson peut équivaloir 1000 discours.
Le langage prend le pouvoir, c'est possible ça. Le dialogue, en tout cas.
Oui, parce que il y a des ça s'est prouvé hein, dans l'histoire, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Que ressentez-vous quand vous chantez ? Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous plongez dans ces chansons très universelles, finalement ?
En réalité, quand je suis dans la musique, je suis dans un autre monde où j'ai la possibilité de me réfugier, d'oublier les choses un peu pesante, et je crois que la musique est une des rares choses qui puisse m'apporter du bonheur à l'intérieur de moi-même.
Et vous pensez à la dimension universelle de vos chansons quand vous les chantez ?
Non, je ne suis qu'un petit saltimbanque qui, là, dans son coin, a gratté la guitare, qui est le premier surpris de l'impact.
Un peu plus que ça, quand même.
Ces chansons. Enfin, dans ma tête.
Ah, dans votre tête.
Vous savez, quand vous sortez les choses de vous-même, vous les banalisez, donc, et vous êtes surpris quand vous voyez l'effet que ça fait des fois.
Quel regard portez-vous sur ces conflits entre religions qui n'en finissent pas ?
Oui, est-ce que le sentiment va un jour surpasser les haines et nos plus bas instincts ? Est-ce que les croyances, les stéréotypes, les dogmes vont avoir raison de l'amour ? Et je crois que pour moi, la définition de la chanson et puis de l'art d'ailleurs en général, ce sont ces petites victoires progressives, lentes, mais sûres de ce qui est profane, sur ce qui est sacré, sur ce qui est dogmatique. Je ne donne pas de conseils, hein. Moi, je ne suis qu'un athée qui ne pratique pas toujours son athéisme.
Vous suggérez.
Par peur, par lâcheté, il suffit que je sois dans un avion pour que je commence à croire plus fort que si j'avais les pieds sur terre, et ça s'estompe un peu avec l'atterrissage. Donc c'est dans nos petites lâchetés
oui.
quotidiennes, parce que je suis dépassé par ces choses. Mais ce que je sais, c'est que je ne préfère pas vous voir si vous êtes religieux, si vous appartenez à une secte ou un clan ou un parti, mais je préfère vous connaître avec votre clin d'œil, votre manière de voir les choses, parce que je sais que cette vérité est là en vous et c'est celle-là qui m'intéresse.
C'est-à-dire que la tolérance et la paix passent donc par une pratique peut-être plus éclairée de la religion, en tout cas plus adaptée à notre époque.
Je crois que la religion, c'est une relation entre le créateur et sa créature, tout simplement. C'est une question de conviction personnelle. D'ailleurs, on dit dans notre imaginaire collectif, le jour où tu mourras, je ne serai pas là pour intervenir pour toi. Ce sera entre toi et lui. Donc, je ne vois pas en quoi ces dogmes, ces religions viennent, si vous voulez, empiéter sur les affaires de la cité ou ce qu'on appelle les citoyens, la laïcité, etc.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà pour cet hommage à Idir, la chronique des libraires à présent avec les coups de gueule et les coups de cœur pour conclure. Un coup de cœur en Suisse, Yasmina Giaquinto, premier coup de cœur je crois pour Idir d'ailleurs.
Oui, complètement. Je trouve que c'est un artiste qui s'est tellement touché au cœur et il a une façon de nous parler aussi qui nous remplit l'âme. Donc, et un grand merci pour cet hommage parce que je crois qu'on va pendant plusieurs jours réussir à plonger dans sa magnifique musique.
Alors, un roman pour les adolescents, c'est cela votre coup de cœur cette semaine, Yasmina ?
Oui, j'ai envie de mettre en avant les éditions Ozu Suisse qui ont eu l'idée géniale de demander à des auteurs de polar suisse reconnus d'écrire des intrigues pour les enfants dès 10 ans. La collection s'appelle Frissons Suisses, avec deux titres déjà à leur actif, écrits par Nicolas Feutz et Marc Woltenhauer. C'est une formule qui fonctionne super bien, des sueurs froides garanties, à vivre en famille, et la collection ne fait que commencer.
Et c'est aux éditions, donc, Ozu Suisse. Merci Yasmina. Coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin ?
Oui, Emmanuel, un coup de gueule sur l'effet de mode. Et oui, la mode, c'est stimulant et ça fait vendre. La tendance, c'est tendance. L'actualité, on ne peut pas s'en passer, mais le caprice, ça m'énerve. Donc, quand on veut lire un livre parce qu'on en parle beaucoup, pourquoi pas? Mais d'une part, que ça ne nous fasse en aucun cas perdre notre esprit critique. Et demandons-nous parfois aussi si les classiques n'ont pas encore, eux également, des tas de choses à nous dire, surtout dans ces périodes où on va devoir absolument favoriser notre stock en librairie.
Exactement, il faut lire tous les livres, y compris les classiques. On va essayer d'en parler d'ailleurs un peu plus souvent dans cette émission. Merci Nathalie. Un autre coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Oui, c'est un coup de gueule au sujet de ces pratiques alternatives que les libraires ont pu mettre en œuvre ces derniers temps, ces fameux drives, les click and collect et les autres pick-up qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, ce sont des modes d'ouverture grâce auxquels les libraires ont pu retrouver leurs clients et reprendre un peu d'oxygène, donc c'est bien. Mais d'un autre côté, on peut garder à l'esprit tout de même que ces mots si peu francophones, ils recouvrent des stratégies commerciales qui ont été pendant des années l'arme extrêmement efficace des hypermarchés, des enseignes de malbouffe, des hangars multiproduits pour avoir notre peau, la peau du commerce traditionnel. Et donc, je voudrais souligner cette petite ironie qui ne fait pas tellement plaisir qu'en fait, cette petite chance qu'on a pu saisir dans ce qui est tout de même une crise économique majeure pour nos librairies, eh ben ça vient précisément de l'ennemi, des pratiques de l'ennemi.
Et avec des mots pas du tout francophones, vous avez raison de le souligner. On termine avec un coup de cœur au Canada, avec Katia Courteau. C'est à vous, Katia.
Oui, un coup de cœur en jeunesse aussi, mais un album pour les petits. C'est Poco et le tambour de Mathieu Forsythe, publié chez Comme des géants. Alors, ce qui frappe avec Mathieu Forsythe, c'est d'abord son style graphique. C'est toujours magnifique et vraiment un style unique. Pour la première fois avec Poco et le tambour, il signe le texte et c'est très réussi. C'est plein de finesse, clin d'œil aux parents en humour. En très peu de mots, il aborde la persévérance, l'identité et le plaisir de partager. L'album se termine en une fabuleuse fanfare où le bonheur d'être ensemble prend tout son sens. C'est l'un des plus beaux albums de cette année, j'en suis certaine.
Poco et le tambour, c'est aux éditions Comme des géants. Merci beaucoup, Katia. Merci à toutes les quatre. Au revoir à toutes.
Au revoir, Emmanuel.
Merci à vous. Bonne semaine à vous en Suisse, en France, en Belgique, au Canada et à travers le monde. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Rémi Sistiaga et Guillaume Roux. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France et l'application de la direction de France Inter. Jean-Marie Félix en Suisse pour la RTS. René Mikils en Belgique pour la RTBF. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. À la semaine prochaine pour un nouveau grand voyage francophone avec des reportages et des invités. Merci à tous de nous être fidèles. Faites attention à vous surtout. Bon week-end.